Dialogue entre Congolais avec Alain Rang.
Bonsoir, province orientale. Dans une déclaration faite hier lundi, les députés provinciaux de l'Ituri annoncent le changement de ce district en province à partir du 15 mai prochain. Qu'est-ce qui motive cette décision et quelles pourraient en être les conséquences sur le fonctionnement de la province orientale? Trois invités participent à cet échange. John Kinanzabo, député provincial et porte-parole des députés signataires de la dite motion, déclaration pardon, il est en ligne. Bonsoir, honorable Kinanzabo.
Bonsoir.
Koloso Soumaïli, directeur de cabinet adjoint chargé de la décentralisation au ministère de la décentralisation et aménagement du territoire du gouvernement central, il est avec moi dans ce studio. Bonsoir, monsieur Soumaïli.
Bonsoir.
Professeur Eugène Bagnacou-Loapé, il est analyste politique, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vos réactions sont déjà très nombreuses. Mandandaki Tandio de Kindu Maniema. Les députés provinciaux ne doivent pas prendre une telle décision alors qu'au niveau même de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux n'ont jamais revu l'applicabilité de cet article. Est-ce que ces députés ne seraient pas seulement un arbre qui cache la grande forêt? Bovi Kilundu de Mons en Belgique, nous Congolais devons apprendre à nous prendre en charge et savoir que l'installation des provinces à taille réduite a entre autres l'avantage de permettre une prise de conscience par rapport aux potentialités locales. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Le district de l'Ituri change de statut le 15 mai prochain. Il deviendra la province de l'Ituri selon la déclaration des députés provinciaux de la province orientale originaire de l'Ituri faite hier lundi devant la presse de Kisangani. Ces députés affirment qu'ils se fondent sur l'actuelle constitution du 18 février 2006 dans son article 2 qui stipule que la date du vendredi 14 mai 2010 est la date butoir d'installation des provinces. Toujours pour ces députés, l'Ituri est prêt à fonctionner comme province avec toutes ses institutions. On écoute le député provincial Floribert Katanabo, membre de la coordination du groupe parlementaire de l'Ituri, au micro d'Anselme Massois.
Nous, députés provinciaux de l'Ituri, réunis à Kisangani du 17 au 29 avril 2010 en vue d'analyser la situation générale de l'Ituri, caractérisée par la sous-administration et la mauvaise gouvernance dont les effets néfastes multiformes sont entre autres les détournements des deniers publics, la corruption, l'institutionnalisation des opérations retour à tous les niveaux des services, l'insécurité persistante, saisissant l'opportunité que nous donne la Constitution et la loi numéro 08/012. Compte tenu de la viabilité de l'Ituri et de sa disponibilité en infrastructure minimale pour le fonctionnement de la province, déclarons considérer la date du samedi 15 mai 2010 comme celle du démarrage effectif de notre province de l'Ituri avec toutes ses institutions. Demandons aux institutions nationales de s'assumer face à cette déclaration.
Signalons que cette déclaration a été appuyée par la société civile de l'Ituri ainsi que par les députés nationaux originaires de l'Ituri. Honorable John Kinanzabo, je rappelle que vous êtes député provincial et porte-parole des députés signataires de la dite déclaration. Qu'est-ce qui a, une fois de plus, motivé cette déclaration?
Oui, monsieur le journaliste, vous savez que la motivation est simple. Elle est tout simplement constitutionnelle. Vous avez suivi l'honorable Katanabo lire une partie de la déclaration. La motivation est constitutionnelle parce que l'article 2 est clair à la matière. Le Congo est un État qui est composé de 21 provinces et de la ville de Kinshasa. C'est l'article 2 donc. Et parmi ces 25 provinces, nous retrouvons bel et bien l'Ituri. Ça, c'est de 1. Mais le corollaire de cette motivation, de cette raison principale, c'est aussi, entre autres, l'historique même de l'Ituri. Vous savez que depuis 1958, en passant par 1962, 1987, 1992, et même pendant la période de rébellion de 1999 jusqu'à 2003, pour ne citer que ce temps-là de l'histoire, l'Ituri a été province. Donc, l'Ituri, aujourd'hui, la Constitution lui a donné cette qualité de province. Ce n'est pas nous qui le réclamons. Le peuple itourien et tout le peuple congolais ayant adopté la Constitution au référendum, il ne reste plus qu'à l'appliquer. Donc, au stade actuel, même si le gouvernement prétend dire qu'il n'y a pas de moyens, mais nous pensons qu'il ne faudra pas avoir chercher à avoir tous les moyens pour commencer les nouvelles provinces constitutionnelles, parce que les provinces vont chercher à se développer, à s'organiser à partir de la base.
On aura
aussi de la volonté politique pour y aller. Donc, pour nous, les raisons sont suffisantes et il y a même l'urgence pour qu'on applique dans sa rigueur les dispositions constitutionnelles dans les délais réglementaires.
Honorable Tinanzabo, alors comment cela va-t-il se passer concrètement ce 15 ans? C'est-à-dire que le 15 mai prochain, vous allez élire un gouverneur, mettre en place une assemblée provinciale. Comment cela va se passer concrètement?
L'assemblée provinciale, non. Vous savez que les 30 députés de l'Ituri sont bel et bien députés de la province de l'Ituri. Rappelez-vous que la CEI avait déjà réglé cette question lors des élections de 2006. C'est pourquoi les élections se sont déroulées sur base de découpage déjà. C'est comme ça que vous avez, n'est-ce pas, les sénateurs pour les 26 provinces. Vous avez également des députés qui viennent de chaque district et qui doivent devenir province, qui sont connus aujourd'hui. Pour le cas de l'Ituri, nous sommes au nombre de 30. Il n'y a pas question de chercher d'autres députés ailleurs. Et pour la procédure, je pense que la procédure également est réglementée. Il va suffire et falloir siéger en session extraordinaire. Et après la session extraordinaire, pour désigner le bureau définitif de l'Assemblée de l'Ituri, les autres processus vont se poursuivre. Je souligne également que pour élire le gouverneur et le vice-gouverneur, c'est l'affaire de la CEI. La CEI existe bel et bien à l'Ituri. Donc, ce sera un processus qui va se poursuivre au fur et à mesure. Donc, nous ne trouvons aucun problème. C'est une disposition qui est tout à fait réglementaire que le gouvernement central, dont le gouvernement central doit prendre acte et appuyer afin de capitaliser, n'est-ce pas, cette démarche qui n'est qu'une démarche normale au bénéfice de la nation, au bénéfice du développement au niveau de la base.
Alors, avant de donner la parole à Colosso Soumaïli, directeur de cabinet adjoint du ministre de la décentralisation, honorable Tinanzabo, d'après la procédure, parce que vous faites allusion au respect de la Constitution, êtes-vous compétent, vous, pour déclarer une province, déclarer qu'un district devient une province?
Mais il n'est pas question de déclarer. La Constitution l'a déjà déclaré. Quand vous lisez la Constitution, tout est clair.
Mais quant à
quant à la mise en application de cette disposition constitutionnelle, nous avons demandé au gouvernement, n'est-ce pas, de s'assumer. Parce que, je savais jusqu'aujourd'hui, nous sommes à presque 11 jours de la fin de la date butoir. Le gouvernement n'a jamais présenté les difficultés acquis des droits, c'est-à-dire auprès de l'Assemblée nationale, auprès du Sénat, quant à l'installation effective des nouvelles provinces, selon même la loi, n'est-ce pas, portant la loi du 31 juillet 2008, portant fonctionnement de provinces. Cette loi, en son article 75, stipule que le gouvernement de la République, n'est-ce pas, doit présenter un mois après la promulgation de la dite loi le calendrier de l'installation de nouvelles provinces visées à l'article 2 de la Constitution.
Merci.
Voilà un peu ce qui n'a pas été fait. Donc nous supposons que le gouvernement respectera le délai parce qu'il n'y a pas un moratoire en la matière.
Merci à M. Colosso Soumaïli, directeur de cabinet adjoint chargé de la décentralisation au ministère de la décentralisation et aménagement du territoire du gouvernement central. Vous avez suivi le député provincial John Tinanzabo. On a un peu monopolisé la parole pour permettre à nos auditeurs d'avoir un peu plus de précision sur cette question. Quelle est votre réaction?
Et merci beaucoup pour la parole. Je crois que ce que je dois dire d'abord est que la déclaration de députés provinciaux de l'Ituri est tombée à 11 jours, effectivement, plus ou moins 11 jours de la date butoir. Cette déclaration, pour moi, je considère que c'est une interpellation du gouvernement central. Une interpellation pour dire au gouvernement central, à l'autorité compétente qui doit effectivement exécuter les prescrits de la Constitution, que bientôt nous arrivons à la date butoir. Qu'est-ce que vous faites? Nous, l'Ituri, avec tout ce qu'ils ont donné comme historique là-bas, nous sommes prêts à être déjà une province. D'ailleurs, nous avons déjà été à plusieurs reprises, nous avons déjà fonctionné comme des provinces. Mais maintenant, la Constitution nous donne cette opportunité et nous voulons effectivement fonctionner comme des provinces. Mais j'ai été très, très, comme je voulais dire à toute l'opinion, de ne pas s'alarmer outre mesure, tel que j'ai suivi dans la radio et tel que j'ai lu dans les journaux. On a même qualifié des actes de rébellion. Je crois que non, puisque les députés de l'Ituri, ils se sont référés effectivement à la Constitution et aux lois du pays. Ils sont allés dans l'histoire du pays. Et tout ça, ce ne sont pas des actes qui montrent la rébellion, mais une interpellation du gouvernement. Vous trouverez que les mêmes députés sont ouverts. Quand ils venaient de lui-même de dire là qu'il n'y a pas un moratoire, et si vous lisez du moins leur déclaration ici, ils disent ceci, il y a un point, il dit, attendu que les dispositions constitutionnelles et légales mentionnées ne sont ni révisées, ni abrogées, et ne font l'objet d'aucun moratoire jusqu'à ce jour. C'est une ouverture. Cela veut dire que le gouvernement doit prendre des dispositions. Soit qu'on révise effectivement cette disposition, soit qu'il y a un moratoire qu'on prend pour dire que, bon, soit qu'on prolonge les délais ou on ne suspend l'exécution de cela par les députés. C'est là ce que je voulais dire aussi, que les membres de l'Assemblée qui nous écoutent à ce moment-ci doivent effectivement prendre des dispositions. Puisqu'il ne faut pas qu'on aille jusqu'au 15 pour dire que maintenant on va prendre des dispositions. Donc c'est une interpellation du gouvernement pour dire que effectivement la date butoir est proche, mais nous, les touristes, nous voulons fonctionner comme province si du moins il n'y a pas un acte qui est contraire à ces dispositions-là qui sont prises.
Mais est-ce que vous confirmez que c'est le mois de mai, le 15, qui est prévu par la Constitution comme date butoir?
Effectivement, oui. C'est la date butoir le 15. Puisque c'est à 2007, la dernière institution qui était l'Assemblée, le Sénat, était installée, si je m'abuse, le 14 mai. Donc, ça fera 36 mois, donc 3 ans, le 14 mai 2010. Donc, c'est la date butoir, effectivement.
Professeur Eugène Bagnacou Loate, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir.
Et voilà, nous n'avons pas eu l'occasion de nous saluer en début d'émission. Vous avez suivi l'honorable Tinanzabo ainsi que M. Soumaïdi Colosso. Quelle est votre lecture à ce niveau du débat?
Merci beaucoup. Je m'appuie à deux niveaux. Le premier niveau est constitutionnel, le deuxième niveau est politique. Au niveau constitutionnel, je pense que le député provincial de l'Ituri ont totalement raison, et tout comme le directeur de cabinet, c'est Soumaïli qui vient de parler, si je m'en abuse, c'était des titres, a aussi raison. Et en prenant les faits, et tel que vous savez, aujourd'hui je venais de publier un article sur la nécessité démocratique de la révision constitutionnelle, j'insistais sur le fait qu'il y a deux phénomènes fondamentaux, ou je dirais même trois. Il y a le problème de la gouvernementalité, qui fait que le gouvernement, l'exécutif de l'État, n'assume pas ou ne veut pas assumer totalement les prérogatives et les pouvoirs réglementaires qui sont reconnus. Il y a un état dans la présentation, un problème aussi fondamental que la révision constitutionnelle, surtout en ce qui concerne les provinces, les nouvelles provinces, les 26, aurait dû présenter directement à l'Assemblée ce projet. Et s'il arrivait que l'Assemblée ne réagissait pas suffisamment, là, on aurait pu incomber la responsabilité de tous ces décalages à l'Assemblée. Mais dans le cas d'espèce, c'est le gouvernement qui n'a pas pu présenter. Ça, c'est de un. De deux, sur le plan toujours constitutionnel, je souligne que lorsque les dates butoirs dont on parle ont été présentées, il n'y a eu aucune disposition, comme ça s'est fait dans d'autres pays, une disposition, comme on dit, de procédure de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si le gouvernement trouve que les tensions politiques, tout ce qui a comme débordement en ce qui concerne les ambitions, dépasse l'organisation ou l'applicabilité d'une constitution, directement le gouvernement fait appel à ce qu'on appelle la procédure de conflit d'intérêts. En ce moment, on peut saisir la Cour suprême de justice pour traiter de cette question, éventuellement envisager des négociations et voir quelles sont les dispositions provisoires qui peuvent amener à ce qu'il n'y ait pas nécessairement une confrontation d'intérêts entre les provinces. Ça n'a pas été fait. Donc c'est un manque d'intelligence, je m'excuse beaucoup, pas un manque d'intelligence, un manque d'adaptation aux problèmes fondamentaux qui se passent dans l'entreprise. Donc ça c'est du point de vue constitutionnel. Du point de vue politique, il y a un phénomène fondamental qu'il faut dénoncer, c'est que la conception de province telle que nous l'entendons, dans notre constitution, je combine les deux, dans notre constitution, on dit que le Congo, la République démocratique du Congo, est un État souverain, uni, indivisible, et laïque. Donc, ça remonte un peu dans notre conception depuis 60. Ça, je voudrais bien le souligner. Nous sommes dans ce module où le gouvernement, où l'État congolais est un État uni et indivisible. Donc, lorsque nous parlons de province, j'aurais bien compris que même nos amis de l'Ituri, et je l'ai dit même de Maïnda Mézaïs chez moi, nous voulons avoir ces provinces, mais il faut déterminer dans quel cadre. Est-ce que nous voulons voir ces provinces dans le cadre d'un État uni et indivisible, ou nous voulons avoir cet État dans une conception de l'État fédéral et donc des provinces fédérées. C'est tout le débat est là. Et je pense que je ne peux pas prêter les mauvaises intentions à nos amis du tourisme, comme on les a mis des autres provinces, des 26 provinces. Nous voulons tout simplement que cette question soit réglée et ne peut être réglée que par une révision constitutionnelle ou une clarification de la constitution, de la lecture de la constitution, ça je ne sais pas aujourd'hui.
Professeur Banyaku, il y a cet auditeur Deo Biaruhanga de Bouya en province orientale qui dit le peuple itourien accueille cette nouvelle avec beaucoup de clameurs. Nous sommes tellement oubliés par le gouvernement central dans son programme de 5 chantiers. Professeur, faudrait-il lire une accumulation de frustration aussi de la part de certaines populations?
Ah oui, mais je voudrais dire pourquoi je viens de dire le problème constitutionnel. Comment voulez-vous avoir élu un président de la République au suffrage universel direct et confier une collaboration de son mandat ou de l'exercice de son mandat avec un premier ministre qui n'a pas été élu directement et qui ne sort pas nécessairement d'une majorité au sol? Le premier ministre actuel, il a parlé des députés, il présente quel poids réel lorsque nous parlons de la majorité. Ben, je ne vais pas renier les accords, puisque moi-même j'y ai souscrit à ces accords entre la famille ou le PPRD et les autres membres de la majorité présidentielle. Donc je ne peux pas renier. Mais je dis tout simplement, comment voulez-vous aujourd'hui imputer maintenant là à l'État, imputer au président de la République les turpitudes de bon gouvernement qui n'arrive pas à assumer correctement? C'est responsabilité. Puisque là, vous voulez bien dire que moi j'ai le pouvoir réglementaire. Mais un des pouvoirs réglementaires, ce n'est pas seulement nommer les mandataires, ce n'est pas seulement chercher des postes, faire des contrats, mais aussi prévoir qu'il y a telle disposition de notre constitution qui doit être respectée, et cette disposition fondamentale, c'est-à-dire nous avons souscrit à ce qui est notre État est 26 provinces. Mais cela ne se concerne pas. Est-ce que ces 26 provinces sont les 26 provinces fédérées ou ces 26 provinces qui appartiennent à l'État congolais unis et indivisibles? Voilà, c'est deux débats.
Merci, professeur. Avant de donner la parole à l'honorable Sinan Zabo, M. Soumaïli, vous avez suivi le professeur, hein, il incrimine pratiquement le gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait présenter le projet quant à la révision pour que tout soit mis en marche, mais vous-même vous avez parlé d'une interpellation. N'y a-t-il pas contradiction à ce niveau-là, au niveau du gouvernement même?
Il n'y a pas de contradiction au niveau du gouvernement. Je crois que le gouvernement fait son travail, puisque gouverner c'est prévoir, puisque nous sommes aujourd'hui en train de chercher à avoir 26 provinces, 25 plus la ville de Kinshasa, oui. Mais nous devons aussi savoir comment ces provinces vont fonctionner et est-ce que le gouvernement est-il capable effectivement d'assumer toutes ces charges. C'est tout ça. On est en train d'étudier dans le gouvernement. Je crois que tous les textes.
Mais vous l'étudiez sachant qu'il y avait un délai.
Effectivement, il y a un délai. Et aujourd'hui, les gens sont en train de parler effectivement des révisions. De la Constitution, c'est pour cela. Parce que si le gouvernement trouve que la charge est encore très difficile à assumer, le gouvernement va proposer directement que la Constitution soit révisée. Et c'est ce que je vois.
Honorable Sinan Zabo, vous avez suivi le professeur Banyaku. Quel est votre point de vue?
Écoutez, j'ai suivi le professeur, j'ai suivi M. Colosso. Qui ne nous ont pas contredit dans le fond. Mais ils ont évoqué la révision de la Constitution qui, selon elle, semble être maintenant une priorité. M. Colosso a dit quelque chose de très important, que gouverner se prévoit. Cela est tout à fait vrai, gouverner c'est effectivement prévoir. Je pense que ce pays est gouverné chaque jour après que le gouvernement ait été investi après les élections. C'est prévoir, ce serait aussi prévoir le respect de la Constitution, et voir ce qui est prévu par la Constitution, apprécier les délais, chercher les moyens, et enfin faire une synthèse, et surtout montrer la volonté politique de vouloir marcher dans le sens de ce que demande le peuple. Parce que n'oubliez pas que, et là je le rappelle toujours parce que c'est important, notre constitution actuelle a été adoptée au référendum. On ne peut pas s'en moquer n'importe comment. Alors qu'est-ce que nous constatons? C'est aujourd'hui à 11 jours, avec cette déclaration, qu'on veut relancer le débat. Le gouvernement n'est jamais passé devant l'Assemblée nationale, ni devant le Sénat pour évoquer une quelconque difficulté par rapport à la question. Et nous pensons que si on veut maintenant modifier la Constitution, on risque de le faire sur mesure et aussi au mépris de la volonté du peuple. Et je suis en train de sentir qu'on veut toucher à l'article 220. C'est ce que je sens. Parce que lorsqu'on va dire qu'il faut revoir le professeur a parlé d'un président élu, et qui doit cohabiter avec un premier ministre qui a été nommé, ils doivent travailler ensemble seulement sur base d'un accord. J'ai sens en lui un peu quelqu'un qui voulait qu'on ait un peu un régime présidentiel, hein, qui serait du chef de l'État, le chef du gouvernement par exemple.
Merci.
Tout cela, je pense qu'il faut faire attention avec la révision constitutionnelle qu'on ferait dans le sens de la tailler sur mesure, parce que ça entamerait plus les intérêts du peuple. Le gouvernement doit travailler en fonction des intérêts de la nation et de la population.
Merci.
Je pense que c'est ça notre point de vue pour l'instant.
Merci, Monsieur Soumaïli. Je reviens à vous. Il y a un palais de Kinshasa qui dit diriger, c'est également prévoir et anticiper les événements. Tout le monde savait bien que ce problème de l'installation de nouvelles provinces dans les 36 mois en RDC allait se poser car la Constitution le prévoit. Malheureusement, force est de constater que rien de concret n'a été fait dans le chef des dirigeants et législateurs congolais pour ne pas se retrouver dans cette inconstitutionnalité. Samuel Edidi Bazepeyo de Kinshasa encore, je pense que le gouvernement central et tous les Congolais doivent prendre cette annonce au sérieux. Il n'est pas exclu qu'il y ait de nouveau une main noire qui tente d'instrumentaliser les députés provinciaux des Litouri dans le but de mettre en pratique, il dit entre guillemets, un certain plan de balkanisation de notre pays, Monsieur Soumaïli.
Oui, je l'ai dit, gouverner c'est prévoir. J'ai aussi dit que il y a 11 jours qui nous restent. Mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas si beaucoup de gens voudraient que le gouvernement souvent passe ici à la radio Capi pour dire que voilà ce que nous sommes en train de faire pour ce point-là. Le gouvernement effectivement travaille dans le sens que. Et au moment où la disposition constitutionnelle là, du 15, la date qui va expirer le 15, là, arrive, il y aura des dispositions qui seront déjà prises pour cela. Donc, il ne faut pas croire que le gouvernement croise les bras. Non, le gouvernement ne croise pas les bras. Le gouvernement est conscient que nous allons arriver à l'échéance et il se prépare pour cela. Donc, je ne vois pas le problème. Et l'interpellation de députés provinciaux de l'Ituri s'est tombée à point nommé encore pour motiver le gouvernement à prendre des dispositions.
Donc là, vous êtes en train d'annoncer que d'ici le 15, il y aura des nouvelles dispositions que le gouvernement va annoncer, pour ne pas me répéter.
Je suis le directeur de cabinet adjoint du ministre de la décentralisation, chargé de la décentralisation, et je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, je ne peux pas dire moi que à telle date ou à tel moment le gouvernement prendra telle ou telle disposition, mais je parle du travail du gouvernement, puisqu'ils sont conscients que l'échéance est là, et le gouvernement ne va pas recroiser les bras.
Mais plusieurs fois le gouvernement a évoqué ce problème de manque de moyens, finalement c'était quand même prévisible hein, cette situation.
La situation était prévisible, oui.
On a l'impression que le gouvernement ne fait rien, ne fait presque rien. C'est l'impression, malheureusement.
Heureusement que vous dites que c'est l'impression. C'est une impression que vous avez, mais le gouvernement fait quelque chose. Le gouvernement est en train de mettre des mécanismes comment arriver à contourner cela.
Mais pourquoi vous ne communiquez pas?
Non, le travail du gouvernement, ce n'est pas des cas où on veut prendre une décision, on vient à la radio pour le communiquer, non. Le gouvernement a sa manière de communiquer.
Oui, mais des voies officielles par lesquelles il pourrait peut-être apaiser, hein, par exemple, les députés provinciaux.
Oui, le gouvernement communiquera au moment opportun.
Après la date.
Je ne dis pas après la date.
Voilà, professeur Bagnacou, vous avez suivi cet échange. Finalement, y a-t-il un problème de communication entre le gouvernement central et les autres institutions?
Non. Il n'y a pas un problème de communication, un problème de gouvernabilité.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que lorsque j'entends les officiels gouvernementaux parler de moments opportuns, mais c'est vraiment là, nous ne sommes pas dans une démocratie. C'est vraiment là, c'est dire à Mobutu qui va faire un discours, un meeting populaire pour dire je vous annonce, je voudrais ceci. Mais non, non, nous avons élu un gouvernement, nous avons élu des institutions de la République, s'il vous plaît. Donc, il ne s'agit pas de petites cachettes, il ne s'agit pas non plus d'une intelligence, il s'agit de la pratique démocratique qui veut qu'il faut informer, discuter, négocier et au besoin décider en tout état de cause. Et ici, dans le cas d'espèce, moi j'ai dit que le problème fondamental, c'est un problème de gouvernabilité. On a le gouvernementalité,
gouvernabilité.
Gouvernabilité, où il a été dit clairement que le pouvoir réglementaire
ainsi que les pouvoirs exécutifs qui sont dévolus au gouvernement, c'est-à-dire au premier ministre, au ministre, doivent être appliqués. C'est-à-dire que lorsqu'on sent un problème, il n'y a pas seulement ces problèmes de province qui arrivent, mais il y a un problème fondamental. Quels sont les pouvoirs réglementaires qui sont dévolus au président de la République? Puis je vais bien dire, puisque je n'ai trouvé dans nulle part dans les textes constitutionnels, qui sont dévolus au président de la République élu démocratiquement, c'est-à-dire en suffrage direct. Quels sont les pouvoirs qui sont dévolus ou les compétences qui sont dévolues au premier ministre et au gouvernement qui sont des instances, comme on dit, des instances de dérivation? C'est un problème fondamental, ça c'est des 1. Et ça, ça doit être résolu avant qu'on y arrive à toutes les complications d'inconstitutionnalité. Et de 2, je voudrais que politiquement qu'on sache, est-ce que nous sommes un État unitaire, unitaire et indivisible, et auquel cas, la définition même des provinces dont nous parlons, Ituri n'a pas demandé, je veux bien dire Ituri comme moi, Mouman-Ndombe, nous n'avons pas demandé à nous, faire pavaner comme de province fédérée, nous voulons arriver à ce que nous soyons une province, comme l'a dit le porte-parole des députés, qui soit gouvernable.
Merci.
Quand on dit gouvernable, c'est-à-dire qui se sente pris en compte.
Merci.
Dans les décisions du gouvernement.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent, Jean-Pierre Mutombo de Kisangani en province orientale, les députés de l'Ituri veulent appliquer la constitution qui avait prévu cette disposition, mais ils oublient que cette situation risque de s'étendre sur l'ensemble du pays. À dire vrai, le pays est devant un problème très sérieux d'ici le 15 mai à cause de la lenteur de l'Assemblée nationale sur la révision de la constitution. Venant à Wabilo de Matadioba Congo, je pense que cette démarche devrait être menée de façon générale et non isolée comme veulent le faire ces députés provinciaux de l'Ituri. Étant une disposition constitutionnelle, cette initiative devrait venir des députés nationaux et non provinciaux. Sinon, il y aura un effet d'entraînement pour les autres provinces et ça sera un déséquilibre généralisé du pays. Monsieur Soumaïli, un mot avant de passer la parole à l'honorable.
Oui, je voudrais d'abord préciser ici, puisque j'ai entendu le professeur Bagnacou parler des actes réglementaires. Mais ici, il ne s'agit pas des actes réglementaires. Ici, c'est une loi qui doit modifier, et c'est les actes de l'Assemblée qui doit modifier cette disposition constitutionnelle. Alors, ce n'est pas le gouvernement qui va prendre un acte pour modifier cette disposition. Et le gouvernement peut-être pourra proposer ce qu'il faut faire, mais aussi les députés, ils ont l'initiative pour ce genre de cas. Donc, je voudrais dire ici que le gouvernement, effectivement, gouverne. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans notre pays. Et vous savez que le gouvernement a beaucoup de contraintes. Nous sommes en train de travailler ici avec sur notre tête ce qu'on appelle le feu d'achèvement, où le gouvernement est en train de s'atteler à y arriver. Donc c'est tout ça ensemble. Peut-être que les choses, les gens doivent le savoir. Sur le plan budgétaire aussi, les moyens sont tellement minimes et pour déclencher cette situation d'installation de province. Je crois que nous devons faire confiance au gouvernement et d'ici là, le gouvernement pourra proposer, et à l'Assemblée ce qu'il faut faire.
Quelles pourraient être les conséquences de ces déclarations sur le fonctionnement de la province orientale pour le professeur Ambroise Kamukuni? La province orientale souffrirait qu'on lui ampute d'un de ses districts. En plus, il ne revient pas aux députés de décider d'ériger un district en province, même si la Constitution a prévu que d'ici 3 ans, nous devons avoir 28 provinces. On écoute le professeur Ambroise Kamukuni, constitutionnaliste, joint par Kevin Kouté.
Si une pareille décision pouvait être effectivement exécutée, ça ne manquerait pas d'avoir des conséquences sur le fonctionnement de la province orientale, parce qu'en ce moment-là, la province orientale devrait être amputée d'un de ses districts qui, pour le moment, bien sûr, sur le plan juridique, peut être érigé en province, mais sur le plan politique, ça pose un problème sérieux. Et puis, madame, il faut aussi retenir que s'il est prévu par l'article 2 que l'Ituri deviendrait province et que cela pouvait se faire dans 3 ans, mais il n'est pas de la compétence des députés, de quel niveau que ce soit, de mettre cela en vigueur. Il y a des autorités qui ont compétence pour pouvoir faire fonctionner pareille disposition constitutionnelle. Il ne s'agit pas d'accorder le pouvoir à quiconque qui peut se réveiller un petit matin pour dire moi j'érige une province. Ça ne serait pas légal du tout.
Honorable John Timanzabo, vous venez de suivre le professeur Ambroise Kamukuni. Quelles pourraient être, d'après vous, les conséquences de la déclaration que vous avez faite sur le fonctionnement de la province orientale?
Le professeur Kamukuni?
Oui, Ambroise Kamukuni.
Le professeur Ambroise parle de l'empitement de la province orientale. La Constitution a prévu la disparition de la province orientale dans le délai de 36 mois. Donc il ne va pas s'agir d'amputer quoi que ce soit une partie de la province orientale. Les députés de l'Ituri ont annoncé l'intention de commencer les fonctionnaires, de commencer la province de l'Ituri par rapport à la Constitution. Et les autres, et ça rassurez-vous, les autres collègues d'autres districts ont la même intention. Peut-être qu'ils ne l'ont pas encore fait, attendez, vous verrez, peut-être qu'ils le feront plus tard. Mais les conséquences, comme je dis, les conséquences seront plutôt positives. Parce que si la province du Haut-Touré fonctionnait, la province des bases venait fonctionner, la province de l'Ituri et de la Tchopo, les populations de ces entités-là se verront rapprochées de leur gouvernement. Donc c'est un atout. Et aussi, il y aura les génies propres de chaque entité qui sera exploitée pour son développement. Donc nous pensons qu'il ne sert à rien de considérer cela comme une manipulation, comme a dit quelqu'un, une instrumentalisation. Il faut seulement que le gouvernement capitalise cette démarche pour constater que la province orientale est prête.
Merci.
À aller vers ce découpage accompagné de la décentralisation. Ce sont des choses inséparables, à notre sens.
Merci, honorable M. Colosse Soumaïli. Les conséquences seront positives, d'après l'honorable John Timanzabo. De votre côté, on attend que le gouvernement annonce des nouvelles décisions à ce sujet. Finalement, la province orientale risque d'être ingouvernable.
Non, moi, je crois que le gouvernement va s'atteler à apaiser les esprits. Et pour que ce n'est pas que le gouvernement est contre les découpages, non. Le gouvernement n'est pas contre les découpages. Mais le gouvernement voudrait un découpage maîtrisé. Un découpage fait avec, en prenant en compte toutes les variables possibles. Donc, le gouvernement ne voudrait pas que quelque chose lui échappe. Raison pour laquelle on est en train d'étudier et comment cela peut se passer.
Comment l'agence lui a échappé, vous donnez encore combien de temps?
S'il vous plaît, j'ai parlé ici, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de choses dans notre pays. Vous savez, nous avons traversé des guerres, vous savez l'état dans lequel se trouve le pays, vous savez beaucoup d'autres impératifs. Le gouvernement, je crois que il est bien, c'est bien d'être de ce côté-là pour parler, pour critiquer, mais quand on est là où le gouvernement se trouve, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Mais je voudrais dire que je ne sais pas si c'est M. John, je ne sais pas si c'est
l'honorable Finance d'abord.
L'honorable, il a très bien dit. Les conséquences, c'est bien, c'est de rapprocher effectivement l'administration de l'administré. Et nous, dans la décentralisation, nous encourageons cela. Nous encourageons qu'il y ait des découpages. Nous encourageons qu'il y ait une gouvernance de proximité.
Oui, mais soyons pratiques, hein, M. Soumaïli. Le 15, la province orientale, il y a la province de l'Ituri, la province du Haut, du Bas-Ouélé, ainsi de suite. Comment ça va se passer sur le plan de la gouvernabilité, comme a dit le professeur Bagnacou?
Je suis en train de dire ici, puisque moi je ne me mets pas au 15. Vous voulez me mettre, moi, le 15. Non, moi je suis aujourd'hui, c'est le 4. Je parle du 4. Il n'y a pas encore cette province qui soit érigée. C'est une seule. Je voudrais vous dire que le gouvernement connaît cette situation.
et le gouvernement ne laissera pas cette situation se passer de cette manière-là. Donc, les dispositions seront prises.
Professeur Bagnacco, quelles pourraient être les conséquences d'après vous?
Je voudrais dire ceci, deux choses importantes. C'est que quand on engage un débat, il faut savoir les soutenir. Moi, je suis même plus près de députés, des porte-parole des députés de Ituri, pour dire que les problèmes, il ne faut pas les citer. Ituri a soulevé un problème, mais Ituri n'a pas consommé ce problème. Le problème est national. Nous avons dit qu'il y a 26 provinces qui sont tout au moins délimitées et déclarées dans notre constitution. Maintenant, le problème, ce n'est plus s'accrocher à Ituri, est-ce qu'Ituri va entrer en rébellion, etc. Mais je souscris que dans cette situation, il y aurait des manipulations extérieures. Et tout simplement, puisque la constitution ne détermine pas est-ce que ces provinces sont des provinces dans un état uni et indivisible, ou bien ces provinces sont dans un état de fédération. C'est ça tout le problème. Donc, moi, je n'imagine pas, on ne peut pas se jeter la pierre pour savoir si le gouvernement a bien fait ou bien n'a pas bien fait. Mais moi, j'estime qu'à ce point précis, il faut que la détermination de ce que nous entendons par état unitaire ou un état uni indivisible soit quelque chose que de ça va découler tous les autres préalable, toutes les autres conditions de l'élaboration ou de la création de ces nouvelles provinces. Je pense qu'il ne faut pas mettre à l'esprit des gens que les gens veulent. Il y a quand même, hein, ça, je mets bien la barre, hein, il y a quand même de la manipulation, c'est de la politique, on peut pas empêcher ça. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que objectivement, il faut que le gouvernement puisse nous dire concrètement, et le texte même de l'Assemblée nationale, au lieu de chercher à faire des problèmes d'interpellation ou de conscience, un problème fondamental, le problème fondamental pour nous est aujourd'hui de savoir comment est-ce que nous lisons cette constitution.
Merci, professeur. Prenons la dernière vague des réactions des auditeurs, Robert Baume au Sud Kivu. Est-ce que le district de l'Ituri réunit aujourd'hui les conditions pour devenir réellement une province? N'est-ce pas là une décision hâtive de Kindu, Maniema, Augustin, Mwango? Je pense que ces élus veulent simplement montrer que le gouvernement n'est pas, une fois de plus, capable de respecter les textes, notamment la constitution, ce qui est malheureux. Je déplore aussi le fait que nos autorités avancent toujours les raisons de manque de moyens pour appliquer les lois fondamentales du pays à une année de la fin du mandat politique des actuels dirigeants. Daora César de Bouillant, province orientale, d'aucuns s'interrogent sur la légitimité de cette déclaration. N'y a-t-il pas d'autre voie au lieu de procéder à cette compétition contre le gouvernement central? Je vais vous accorder pratiquement à chacun un mot, hein, en guise de conclusion, l'émission tend à sa fin. Honorable John Tinanzabo, d'abord un mot sur les réactions des auditeurs que vous venez de suivre.
L'auditeur de Kindu ne connaît pas bien l'Ituri. J'ai eu répondu en disant que l'Ituri réunit le minimum de conditions. Parce qu'on n'aura jamais une condition ou des conditions maximales comme on veut le faire entendre. Prenez l'exemple de la province de Maniema. Comment ça a commencé? Et allez voir le Maniema aujourd'hui. Et vous allez comprendre que nous avons raison. Le Maniema n'est pas plus que l'Ituri. Et pour le mot de la fin, parce que vous me demandez, nous sommes contents que nous avons le soutien des députés nationaux et des sénateurs de l'Ituri qui ont pris acte de notre déclaration. Nous demandons au gouvernement d'en prendre acte et de prendre toutes les dispositions. Et nous remercions également la société civile et qui représente les forces vives également comme nous, qui a également pris acte de cette déclaration. Donc, pour nous, nous pensons que nous sommes sur une bonne voie, quitte au gouvernement de tirer son épingle du jeu.
Merci, honorable. Professeur Bagnacco, un mot en guise de conclusion aussi.
Je voudrais dire, comme je l'ai dit tantôt, gouvernabilité ou ingouvernabilité et ingouvernabilité et inconstitutionnalité. Je voudrais tout simplement dire ceci. Il appartient au Parlement des chambres réunies de nous dire exactement si nous courons à la rupture de notre processus de démocratique, c'est-à-dire si nous allons affronter la Constitution par des mesures de force majeure ou des mesures, comme on dit, de procédures de conflit d'intérêt, ou bien si nous voulons aller dans les procédures normales, c'est-à-dire des révisions.
Merci, professeur. Monsieur Soumaïli, un mot pour conclure.
Je vais conclure d'abord en disant au professeur que très rapidement, la Constitution définit l'État congolais comme un État uni. Donc, ce n'est pas un État fédéral. Et les provinces comme des composantes politiques et administratives au sein de cet État-là.
Merci. Merci. Excusez-moi de vous couper, c'est pratiquement la fin. Merci à vous de nous avoir suivis, à vous nos invités, ainsi qu'à toute l'équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais. À vous, chers auditeurs, merci et restez branchés sur Radio Capit.